Aymeric, je vais te demander de t'avancer, qu'il va nous lire le passage. Le passage de l'enseignement de ce matin.
Ésaïe au chapitre 9, versets 5 et 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. La fermer et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle et l'Éternel des armées.
Merci, Émeric.
Merci, Charles. Vous pouvez aller vous asseoir, les enfants. Bonjour, tout le monde. Ça va bien? Les enfants, ça va bien?
Oui!
Yes! Super! Super! Si vous voulez, on va dire un mot de prière, d'accord? Je m'appelle Yannick, je suis un des pasteurs ici à l'Église d'Espoir. Les enfants, on va dire un mot de prière pour commencer notre matinée puis passer du bon temps ensemble, d'accord? On va fermer les yeux ensemble, on fait silence, puis on va dire un petit mot de prière ensemble. Père, merci pour cette belle matinée qu'on peut passer juste à la veille des fêtes. Seigneur, ce matin, on veut se rappeler que Noël, avant tout, c'est la fête de la naissance de Jésus. On te prie, Seigneur, de venir nous éclairer ce matin, de nous aider à comprendre vraiment le sens de Noël, Seigneur, et à se réjouir ensemble. C'est en ton précieux nom que nous prions. Amen. Hey, les enfants, j'ai des questions pour vous ce matin. On va réfléchir un petit peu ensemble, juste quelques minutes, d'accord? Puis, vous voyez, j'ai besoin de votre aide. La dernière fois que je suis venu ici, vous m'avez aidé. Vous aviez des super bonnes réponses. Dans le passage qu'on a vu ensemble, il y a un mot, d'accord? Il y a un mot que je veux souligner, puis j'ai besoin que vous m'aidiez. Le mot admirable. Il y a le mot admirable. On parle de la naissance de Jésus. Dans le passage, qui est un vieux passage dans l'Ancien Testament, ça dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné ». Donc, on parle d'un petit bébé. Vous me suivez? On parle d'un petit bébé. Puis là, c'est marqué « Et la domination », ça veut dire le pouvoir, va reposer sur ses épaules et on l'appellera « admirable ». Donc, on parle de la naissance de l'enfant Jésus, puis c'est dit que Jésus est admirable. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les enfants, un nouveau-né, un tout petit bébé nouveau-né. Est-ce que vous avez déjà vu les yeux d'un papa? Moi, je l'ai vécu deux fois. Les yeux d'un papa qui prend pour la première fois son bébé dans ses bras. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu ça? Hein, il y en a qui sont des grands frères, des grandes sœurs. Tu as déjà vu ça? Ton petit frère dans les bras de ton papa. Ton papa Serge en plus de ça. Hein, les bébés. Ah, c'est Michel. Michel, je m'excuse. Je pensais à Serge qui en veut 75 000. Il est là, Serge, je pense, ce matin. Hein? Est-ce qu'il est avec nous? Il est arrivé. Super. Et des fois, lorsque un papa va prendre pour la première fois son bébé dans ses bras, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire « Oh, qu'il est admirable, ce bébé! Qu'il est beau, ce bébé! » Parce que c'est vrai que c'est beau, des bébés, hein? Hein, les enfants? Alors, j'ai besoin de votre aide. On est allé chercher cette semaine des photos. Il y a des compétitions dans le monde. Imaginez-vous, il y a des parents qui sont tellement fiers qu'ils font des compétitions pour montrer c'est qui le plus beau bébé du monde. Alors, j'ai besoin de votre aide, d'accord? On a quatre photos. Ça, c'est des bébés qui ont gagné des compétitions des plus beaux bébés du monde. On va voter ensemble. Regardez-les bien comme il faut. On a le bébé qui s'appelle bébé numéro un. C'est pas de sa faute. Ses parents étaient pas très originaux. Bébé numéro un, bébé numéro deux, bébé numéro trois, bébé numéro quatre. Est-ce que vous avez décidé, les enfants, qui est le plus beau des quatre bébés? Vous avez décidé? OK. Oui, vous êtes décidé?
Oui!
OK, alors on va voter ensemble. Là, je vais avoir besoin que vous teniez vos mains bien droites lorsque je vais dire le numéro. On va les compter ensemble, d'accord? Qui vote pour le bébé numéro 1? C'est le bébé. OK, combien est-ce qu'on a de mains ici? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 pour le bébé numéro 1! OK, le bébé numéro 2, qui dit que c'est le plus beau bébé? Oh boy, il est mal pris celui-là. 1, 2, 3. 3 pour le bébé numéro 2. Le bébé numéro 3, avec ses beaux petits yeux mignons. Qui vote pour le bébé numéro 3? 1, 2, 3, 4. Je pense qu'on a presque un gagnant. Le bébé numéro 5. Non, mais sérieux. 4, je m'excuse. Le bébé numéro 4. Qui vote pour le bébé numéro 4? Oh, je pense que je vous ai eu. On a épuisé tous vos votes sur le bébé numéro 1, hein, c'est ça? OK, c'est le bébé numéro 1 qui a gagné. OK, j'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous, parce que pour de vrai, c'est un petit quiz piège que j'ai fait, les enfants. Écoutez bien ceci. La Bible nous dit que l'enfant Jésus est admirable. C'est vrai? Là, on vient de dire que c'est le bébé numéro un qui est le plus beau des bébés. Si Jésus y avait participé au concours des plus beaux bébés du monde, est-ce que vous pensez qu'il aurait gagné le concours du plus beau bébé du monde? Toi, tu dis oui. Oui, il aurait gagné le concours du plus beau bébé du monde. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres réponses? Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'il n'aurait pas gagné le concours du plus beau bébé du monde? Ah, peut-être, hein? Peut-être pas. C'est quoi que tu as comme réponse? Dis-moi ça, je vais la répéter. Ah, c'est qu'est-ce qui est à l'intérieur. En fait, vous savez, les enfants, on a même un verset qui laisse entendre que Jésus, ben, il était comme pas super hot. Il était pas comme super beau. Ça aurait pas été un mannequin qui aurait été plus tard sur des couvertures de livres ou des couvertures de magazines. Ça aurait pas été quelqu'un qui aurait fait des parades de mode, Jésus, parce que il avait l'air ben ordinaire. Et pourquoi? Parce que c'est ce qui était dans son cœur qui comptait. Alors, si le prophète nous dit que Jésus est admirable, c'est là qu'on va réfléchir un petit peu, les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire admirable? En levant la main, je vais prendre quelques réponses. Qu'est-ce que ça veut dire admirable? Dis-moi ça. C'est quoi quelque chose qui est admirable ou quelqu'un qui est admirable? As-tu une idée?
Qui l'aime beaucoup.
Qui l'aime beaucoup, OK.
Qui se fait aimer par des personnes.
Oh, qui se fait aimer par des personnes. C'est quoi ta réponse? Incroyable, oui, incroyable, admirable. Toi, beau, définitivement, admirable, beau. Parce que Jésus est beau, hein, on a un dilemme.
Un modèle,
qu'est-ce que ça veut dire d'autre? Admirable.
Idole.
C'est notre idole, ça veut dire, wow, hein, on tripe dessus. Quoi d'autre? Admirable, qu'est-ce que ça veut dire? Oui.
Adorable,
c'est vrai, hein, ça pourrait presque être un synonyme. Est-ce qu'il y a un verbe qui ressemble à admirable? Admirer. Qu'est-ce que ça veut dire, admirer? Hein? Vas-y. Wow, c'est beau, exactement. Wow, c'est beau. Alors, les enfants, écoutez bien ceci. Si Jésus n'aurait pas gagné le concours du plus beau bébé du monde, parce qu'il était ordinaire, mais en même temps, il n'était pas ordinaire. Le prophète nous dit qu'il était admirable. En quoi est-ce que Jésus est-il admirable? OK, vous avez entendu ma question? Là, je vais prendre les enfants qui n'ont pas répondu. En quoi Jésus est admirable? En quoi est-ce qu'il est admirable? En bonté, extraordinairement bon, oui. Quand Jésus fait des miracles, c'est admirable. Wow, définitivement. Quoi d'autre?
Dans son cœur,
Jésus était saint, il était admirable. Quoi d'autre? Jésus n'avait pas de péché, dans son cœur, il était saint. Une autre réponse. En quoi Jésus est admirable?
C'est notre Dieu,
définitivement. Alors, Jésus est admirable. Jésus est extraordinaire. Et Jésus est extraordinaire, pas en apparence, mais parce qu'il est différent de tout le monde. Voyez-vous, c'est pour ça qu'à Noël, même si à Noël, on s'arrête, on arrête l'école. Tout le monde a fini l'école ici, non? Il vous reste l'école la semaine prochaine, hein? 2 jours d'école, ça va être la fête, tout ça. Qu'est-ce que vous attendez pendant le temps des fêtes? Qu'est-ce que tu attends, toi, pendant le temps des fêtes?
Du temps en famille,
on veut prendre une pause. Quoi d'autre?
Regardez le nouveau Star Wars.
Moi, je l'ai vu. Star Wars. Qu'est-ce que vous attendez pendant les fêtes? Célébrer Jésus. Voyez-vous, les enfants, pendant les fêtes, on arrête l'école. S'il y avait de la neige, on jouerait dans la neige. On va peut-être qu'on va recevoir même des cadeaux pendant les fêtes. On va voir de la famille, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. On se couche à pas d'heure. Les parents sont d'accord. On mange des crêpes, on mange plein de desserts pendant les fêtes, on mange du chocolat, toutes sortes de choses. Mais pendant les fêtes, on veut se rappeler que c'est avant tout, je reviens à toi, c'est avant tout la fête de Jésus. C'est la fête de Jésus, et pourquoi est-ce qu'on le fête? Parce qu'il est admirable. Comment, c'est ma dernière question pour vous, après ça on va prendre 2 chants ensemble. Comment est-ce qu'on peut fêter Jésus pendant les fêtes? On ne va pas lui donner un Xbox, hein? Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Jésus un Xbox, je ne suis pas sûr que ça y tenterait. Est-ce que j'ai des enfants qui n'ont pas répondu encore, qui voudraient répondre? Comment est-ce qu'on peut fêter Jésus pendant les fêtes? Réponse, ma grande.
Jésus peut tout faire, c'est vrai. Alors, comment on peut le fêter? Comment est-ce qu'on peut l'admirer? En lui donnant notre cœur. Voilà la réponse. En lui donnant notre cœur. Pendant les fêtes, les enfants, tout ce qu'on peut faire, c'est à un certain moment donné fermer la télé, arrêter de regarder les bonhommes, mettre de côté les cadeaux qu'on a reçus ou ces choses-là, puis dire, hey, papa, maman, on rouvre la Bible puis on relit l'histoire de Jésus ensemble. Parce que c'est l'histoire la plus merveilleuse, la plus extraordinaire. Puis après ça, on s'arrête en famille, puis qu'est-ce qu'on fait? On chante un ou deux cantiques pour chanter la gloire de Jésus, comment il est merveilleux. Et puis qu'est-ce qu'on peut faire de plus beau à Noël pour Jésus? Vas-y, ma grande. On peut prier Jésus, et en priant Jésus, on peut lui offrir notre cœur. Parce que dans le fond, c'est juste ça qu'on peut donner à Jésus à Noël. D'accord ensemble. D'accord les enfants? On chantait bien fort ensemble. Deux chants. C'est vraiment beau, hein? Sérieusement. Wow. C'est juste plate que j'étais en arrière puis que je pouvais pas regarder ça, mais j'entendais tout. De toute beauté. OK, on va continuer, les enfants, notre petite réflexion. On a dit tout à l'heure, puis là, je m'adresse à tout le monde aussi. On a dit tout à l'heure que Jésus est admirable, que Jésus est extraordinaire, il est admirable. Maintenant, je vous relis juste mon passage parce que je veux vous parler d'un autre mot qu'il y a dans ce passage-là, d'accord? Alors, je vous relis le passage, essayez de deviner de quel mot je veux vous parler. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alors, un des enfants, de quel mot je vais vous parler cette fois-ci? Vas-y, c'est quoi? Ah, domination, je vais prendre celui-là, c'est pas celui-là? Oui, Jésus, évidemment. Chacun un, juste un, de quel mot je vais vous parler? Répète-moi ta réponse. Conseiller, non, c'est pas conseiller.
Domination,
le nommer. Un autre? Prince de la paix, exactement, exactement. On va regarder. Oui, je sais, mais t'en avais dit deux. Alors, prince de la paix, prince de la paix, qu'est-ce que ça veut dire? Un prince, est-ce que c'est comme un roi? Ou pas loin, hein? Pas loin, hein? Jésus est présenté dans la Bible comme le roi des Juifs. Lorsque Jésus est né, ce qui était annoncé, c'est que c'était le roi des Juifs qui allait naître. Et puis un peu plus loin, on apprend dans les Écritures que Jésus est non seulement le roi des Juifs, mais il est le roi des rois, hein? Le Seigneur des Seigneurs. Il est plus grand que ça encore. Alors on voit ensemble qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, qu'est-ce qu'on veut dire par le fait que Jésus est roi des Juifs. Le titre de notre matinée, on a appelé ça l'enfant roi. Au Québec, on a une expression. Je ne sais pas si vous la connaissez, les enfants, mais peut-être que vous allez vous reconnaître, par exemple. Et peut-être vos parents vont être contents que vous vous reconnaissiez là-dedans. On a une expression au Québec, on parle des enfants rois. Avez-vous déjà entendu ça, les enfants? Les enfants rois. Vos parents savent de quoi on parle. Un enfant roi, c'est... Dans mon temps, on appelait ça un gros bébé Lala. Un enfant roi, vous savez, les enfants, quand des fois tu t'en vas au centre d'achat avec tes parents, puis là, à un moment donné, t'es dans l'allée des jouets, puis il y a des nouveaux, il y a plein de produits dérivés de Star Wars qui sont sortis. Puis là, tu vas voir le dernier Lego Star Wars qui est sorti. Puis là, ton papa, il dit, bien, on va voir. Mais ça s'adonne que dans cette allée-là, pas toi, évidemment, mais il y a un autre enfant qui est là, puis lui, il a décidé que c'est ça qu'il veut avoir, puis il le veut maintenant, je veux maintenant mon jouet. Puis là, il fait une grosse colère. Vous avez déjà vu ça?
Oui.
Un enfant qui pique une grosse colère au magasin devant ses parents. Puis là, les parents, ils savent comme pas quoi faire. Puis tu vois bien que les parents ont honte, puis ils sont gênés. Il pique une grosse colère. C'est un enfant roi. C'est un enfant qui a l'impression que tout lui est dû. Puis lorsqu'il n'y a pas la bonne chose à manger sur la table pour souper, ce que lui aime, il pique une grosse colère, il n'est pas content. Lorsqu'il n'y a pas les cadeaux qu'il veut avoir, il pique une grosse colère, il n'est pas content. Lorsque son petit frère ou sa petite sœur passe avant lui, il pique une grosse colère parce qu'il n'est pas content. J'espère que vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, les enfants. Est-ce qu'il y en a qui font des grosses colères? Vous piquez des grosses colères? Oh, hein? On pique des grosses colères. C'est quand même pas beau, hein? En fait, c'est pas beau chez des enfants imaginer chez des adultes quand un adulte pique une grosse colère, c'est vraiment... Au Québec, on dit « lette ». C'est vraiment « lette ». OK? Un gros bébé lala de 190 livres, c'est pas beau. C'est pas beau. Alors, au Québec, on parle des enfants rois. Là, la Bible nous dit que Jésus est l'enfant roi. Est-ce qu'on est en train de dire que Jésus est un gros bébé lala? Non, hein? De quoi on parle? Parce que Jésus, il faisait pas des grosses colères comme ça. De quoi on parle? Pourquoi est-ce qu'on est en train de dire que Jésus est un enfant roi? On va lire un passage avant de prendre d'autres réponses. Je vais inviter Tristan à venir me rejoindre à l'avant. On va lire un autre passage dans les Écritures qui va venir éclairer ça. Qui est cet enfant roi? Alors, les enfants, ce passage-là est un peu plus long, mais il est vraiment beau. Il est très, très riche. Je vous demande d'être bien attentifs, d'accord? Pour ceux qui savent lire, on va l'afficher à l'écran. Et vous pouvez tout simplement écouter Tristan qui va nous lire ce beau passage tiré de Philippiens.
Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. »
Merci, Tristan. Il y en a des affaires dans ce passage-là, les enfants, mais vous allez voir, il y a des belles perles. On veut comprendre, on veut saisir pourquoi Jésus est l'enfant roi, pourquoi Jésus est... J'ai déjà une question pour vous, je veux juste vous relire un passage, puis vous allez nous aider, vous allez aider toute la salle à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ce passage-là. Écoutez bien, soyez attentifs, parce que je veux des bonnes réponses, je veux que vous compreniez le texte. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire, d'après vous, les enfants, que Jésus existait en forme de Dieu? Je vais prendre deux réponses, d'accord? Peut-être quelqu'un qui n'a pas participé encore. Tu veux t'essayer? Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus existait en forme de Dieu? Oui, vas-y. As-tu une idée? Jésus, c'est Dieu. Excellent. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Jésus, c'est Dieu. Tu veux s'ajouter quelque chose? Oui? Jésus est un enfant et il est un roi. Mais dans le passage qui est ici, ce que le passage nous dit, c'est excellent. Très, très bonne réponse. Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est Dieu. Jésus était auprès de Dieu avant de venir sur la terre. Ce qui fait que Jésus est admirable, c'est pas simplement qu'il est un petit enfant parfait, puis qu'il était beau, puis qu'il aurait gagné le concours du plus beau bébé du monde. Moi, je pense qu'il n'aurait pas gagné le concours du plus beau bébé du monde. Mais Jésus est différent parce qu'il existait en forme de Dieu. Avant de venir sur la terre, Jésus était auprès de Dieu, Jésus était Dieu. Maintenant, il y a encore une autre expression qui est super importante. Ça dit qu'il n'a point regardé... Hey, ça, c'est compliqué, là, parce que c'est du vieux français, OK? Il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Est-ce qu'il y a un enfant qui veut s'essayer pour nous dire qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Vas-y, mon homme.
Ça veut dire qu'il s'est pas mis au-dessus de tous les hommes, mais qu'il s'est mis serviteur.
Ça veut dire qu'il s'est pas mis au-dessus de tous les hommes, mais il a accepté de devenir serviteur. Ça veut dire que Jésus, c'est super bonne réponse. Ça veut dire que Jésus était auprès de Dieu le Père, hein? Dieu le Fils, et il n'a pas tenu à rester dans cette position-là. Garder ses titres, garder tous ses pouvoirs, rester dans sa gloire. Mais Jésus a décidé de devenir un homme. Et c'est ça que le passage nous dit ensuite. Jésus a décidé de devenir un homme. Il est devenu un homme, il est né comme un petit enfant. Vous savez, les enfants, lorsqu'on est tout petit, on est complètement dépendant. Un enfant, comment ça fait pour manger? Ça se lève le matin, ça saute de son lit, ça rentre jusqu'à la cuisine, ça rouvre les portes, sort les toasts, met ça dans le toaster, beurre ses toasts, c'est ça? Un petit bébé? Qu'est-ce que ça fait? Quand ça veut manger, qu'est-ce que ça fait un bébé? Ça crie! Ben oui, évidemment, c'est comme ça que ça mange. Alors, vous avez Jésus qui habite avec Dieu, c'est Dieu le Fils, qui renonce à toute sa gloire, puis qui décide de devenir un tout petit enfant dépendant. Un petit enfant qui ne peut même pas se nourrir lui-même. Et là, on parle de l'humilité de Jésus. Jésus s'est fait serviteur. Il est venu vivre parmi les hommes. Je vais avoir besoin de votre aide encore parce que le passage nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même en devenant un serviteur. Fait, comment est-ce que Jésus est devenu serviteur? Allez pas tout de suite à la fin de sa vie. On va commencer par le début, OK? Jésus, il y a un mois, deux mois, trois mois, un an, deux ans, trois ans, il est à la maison. Comment Jésus était serviteur lorsqu'il était à la maison chez ses parents? Un enfant qui peut me répondre. Oui. Il faisait la table, définitivement. Hein? Quand tu te lèves et tu décides de mettre la table, tu es un serviteur. Dans la maison, tu es en train de rendre service. Quoi d'autre? Il aidait son papa à construire les choses. Jésus, il vidait la vaisselle, hein? Jésus vidait la vaisselle, c'est sûr? Non? Ah, il n'y avait pas de la vaisselle dans ce temps-là. OK. Qu'est-ce qu'il faisait Jésus à la maison? Jésus aidait à nettoyer la maison. Un dernier? Jésus faisait la vaisselle sans lave-vaisselle. Ça, c'est un serviteur. Vous ferez ça pendant les fêtes. Vous ferez ça pendant les fêtes sans lave-vaisselle. Il mettait les vêtements dans la laveuse puis dans la sécheuse puis il les pliait. Il n'y avait pas de laveuse. Hey, être serviteur dans ce temps-là, c'est vraiment être serviteur, tu sais. Nous autres, on a des serviteurs qui nous aident à servir. On met ça dans la vaisselle, on met ça dans la laveuse. Puis après ça, on dit, oh non, c'est trop dur. Alors, est-ce que vous imaginez Jésus qui aurait été un enfant roi comme on parlait tantôt? Non, moi, je veux pas faire la vaisselle. Non, moi, je veux... C'est moi qui vais avoir le plus gros dessert. Jésus faisait pas des grosses colères. Jésus, dans sa gloire, alors qu'il avait tout, Dieu le Fils est venu sur la terre. Il a été un petit enfant. Un petit enfant complètement dépendant. Dépendant des gens qui allaient prendre soin de lui. Dépendant de ceux qui allaient le nourrir. Et plus tard, lorsqu'il a été grand, Jésus est devenu un serviteur d'autre manière, assez extraordinaire. Hein? Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait vers les gens que personne n'aimait. Si Jésus voyait quelqu'un qui était atteint de maladie, qui l'avait tout déformé, touchait à cette personne-là. Personne ne voulait s'approcher de cette personne-là parce qu'elle était rendue laide à cause de sa maladie. Qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus allait lui toucher. Il allait guérir. Il allait l'aimer. Quand Jésus arrivait dans une ville puis il y avait des gens qui faisaient des choses pas correctes, alors tout le monde les rejetait complètement. Personne ne voulait les voir. Personne ne voulait aller vers eux. Personne ne voulait surtout les accueillir dans sa maison. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il était le premier à les accueillir. Jésus était un serviteur. Jésus était vraiment un serviteur. Mais quelle est la manière, les enfants, que Jésus a été parfaitement un serviteur? Est-ce qu'il y a un enfant qui a une réponse pour moi? De quelle manière Jésus a été parfaitement un serviteur? En mourant sur la croix. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Essayez de vous rappeler Jésus dans la gloire, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les anges qu'il servent. Il n'y a pas besoin d'Xbox, pas besoin de cadeaux, il y a tous les cadeaux du monde. Il n'y a rien qu'on peut lui donner. Puis Jésus quitte sa gloire, devient un petit enfant, grandit, commence à servir les gens. Et une des dernières images qu'on a de Jésus, lorsqu'on lit son histoire, c'est Jésus qui est en train de porter une croix. Il est en train de porter la croix sur laquelle il va être crucifié. La croix sur laquelle il va être pendu. Maintenant, je vais faire appel à votre grande connaissance, les enfants. Si Jésus a été parfaitement un serviteur en allant sur la croix, quel service il nous a rendu? Quel service Jésus nous a rendu en allant sur la croix? Il n'est pas en train de vider un lave-vaisselle, là. Comprenez? Vas-y, mon homme. La vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Quelqu'un d'autre qui veut m'expliquer un peu? Quel service Jésus nous a rendu en allant sur la croix? T'as une réponse, mon homme? Vas-y. Nettoyer notre cœur. Lorsque Jésus a pris sur ses épaules la croix, il a pris sur ses épaules nos péchés. Il a pris sur ses épaules nos péchés. Et non seulement nos péchés. Les enfants, vous savez, des fois, lorsqu'on fait du mal, il y a des conséquences. Hein? Jésus n'a pas seulement pris nos péchés, il a pris les conséquences qui venaient avec, avec nos péchés. Et donc, Jésus s'est fait serviteur en prenant sur ses épaules nos péchés, si on veut bien croire en lui. Je vais terminer mon passage, puis on va l'apprendre une dernière leçon qui va nous aider à se préparer pour fêter Noël ensemble cette année. Le passage se termine avec ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu, son Père, qui a vu que Jésus n'était pas un enfant roi qui fait des grosses colères, mais un enfant roi qui est parfaitement obéissant. Jésus qui a vu le Père qui a vu que Jésus a été obéissant jusqu'à la croix. Et voici ce que Paul nous dit dans Philippiens. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Les enfants, vous avez déjà vu dans des films des chevaliers qui viennent se présenter devant le roi. Qu'est-ce qu'ils font? Hein? Ils se mettent à genoux devant le roi pour reconnaître la grandeur du roi. C'est ça qu'ils font. C'est vrai? T'as jamais vu ça dans un film? C'est beau. Moi, j'ai toujours trouvé ça. Waouh! Moi, je vais être le chevalier qui vient me prosterner devant le roi. Et lorsqu'on devient chrétien, c'est ça qu'on fait. Quand on devient chrétien, qu'est-ce qu'on fait? On décide qu'on va pas être un enfant roi qui a droit à tout. Moi, j'ai droit à la vie, j'ai droit à ma vie. Le meilleur, c'est pour moi. Tout est pour moi. Servir un autre roi que nous, on veut servir celui qui est l'enfant roi, Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a quitté sa gloire. Il s'est humilié en venant vivre sur la terre. Jusqu'à porter la croix, porter le poids de nos péchés sur ses épaules. Et Dieu l'a élevé. Et lorsque je deviens chrétien, les enfants, vous avez assisté à des baptêmes dans les dernières semaines. Qui a vu des baptêmes dans les dernières semaines, ici, dimanche? Vous avez vu ça, hein? Mais quand les gens se faisaient baptiser, qu'est-ce qu'ils disaient, si vous avez été attentif à leur témoignage? En somme, ce qu'ils disaient, c'est à partir de maintenant, c'est pas moi le roi de ma vie. C'est pas moi qui vais être le Seigneur de ma vie, c'est Jésus-Christ qui va être le Seigneur de ma vie. Et dans leur cœur, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fléchi le genou pour reconnaître qui est Jésus. Cette année à Noël, prenez le temps de vous arrêter. Prenons le temps de nous arrêter tout le monde. On arrive aux vacances de Noël, on est fatigué. Moi le premier, j'ai dit à Esther hier, j'ai 3-4 jours, juste rien à l'agenda, je me lève à l'heure que je veux. J'ai hâte de retrouver la famille, j'ai hâte de prendre un bon repas, j'ai hâte d'inviter des amis, j'ai hâte de relaxer, j'ai hâte juste de déstresser. Mais pour de vrai Noël, c'est pas les vacances d'été. Pour de vrai Noël, c'est la naissance de Jésus. Et qu'est-ce qu'on veut faire cette année à Noël? Qu'est-ce qu'on fait ensemble ce matin? Dans nos cœurs, on dit Seigneur Jésus, ce qu'il y a de plus beau qu'on peut t'offrir, c'est notre cœur. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre ensemble à l'avant et puis on va prier si vous le voulez. Et déjà, si dans votre cœur, vous dites, moi, mon cœur est là. Je le sais, j'arrivais aux fêtes, j'étais fatigué, j'étais en train de courir. Je suis encore, il me reste des emplettes à faire demain. C'est la cohue dans les magasins. C'est complètement fou. Je veux que tout le monde soit heureux. J'ai de la popote à faire. Il faut qu'on aille là, il faut qu'on aille là, il faut qu'on aille là, il faut qu'on aille là. Mais ce qu'on veut faire ensemble ce matin, c'est se rappeler que le temps des fêtes, c'est pas ça. Le temps des fêtes, c'est offrir à Jésus notre adoration, nos louanges. On va prier ensemble si vous le voulez bien. Mais Seigneur Jésus, on est assemblés ce matin parce qu'on est tout près de la fête de Noël, tout près de cette date que les chrétiens se sont donnée pour célébrer une fois par an ta naissance, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, on n'a rien à t'offrir, ni religion, ni pratique, ni prière, ni cadeau, ni argent. Tout ce qu'on peut t'offrir. Cœur qui disent merci, toi tu nous as donné. Seigneur, ce matin, on veut t'offrir notre louange, notre adoration. On veut se préparer pour les fêtes en sachant qu'on va prendre du temps à l'écart dans la prière pour célébrer la naissance du Sauveur des hommes, de l'enfant roi, Jésus. Amen. Amen.